Bonjour à toutes et à tous. Parole de lawyer. Bonjour, c'est Pierre Samant-Schreiber et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de mon podcast Parole de lawyer, épisode qui va être consacré à la négociation et dans mon expérience à moi, la négociation, c'est une négociation en équipe. Mais avant d'aborder le fond, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de noter 5 étoiles et de partager ce podcast avec toutes celles et tous ceux dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de négociation, de comment on aborde une négociation. Alors je vous préviens tout de suite, on ne va pas parler du fond de la négociation, bien entendu, parce que ça dépend de chacune, mais on ne va pas parler non plus de techniques de négociation. Il y a toutes sortes d'ouvrages qui parlent de techniques de négociation, et en réalité, moi je n'en connais qu'une, et c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, d'abord, comment l'aborder? Eh bien, il faut d'abord être préparé avant même de commencer la négociation. Être préparé, ça veut dire quoi? Ça veut dire se préparer sur le fond et se préparer sur la forme. Sur le fond, eh bien, avant la négociation, il faut que vous relisiez. Que vous relisiez, bien entendu, le projet de document sur lequel on va négocier, s'il y en a un. Relisez vos notes. Vous n'arrivez pas en négociation sans avoir parlé avec votre équipe de ce qui allait être négocié, bien entendu, ou vous avez déjà eu des rencontres, des discussions avec l'autre partie. Vous avez, en tout cas, c'est ce que je vous recommande, pris des notes. Donc, relisez-les pour vous remettre vraiment dans l'ambiance. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de préparer un ordre du jour. C'est très utile et stratégiquement très intéressant de commencer une réunion en disant « j'ai préparé un ordre du jour que je vous propose, vous n'imposez pas ». Mais la réalité, dans mon expérience, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a préparé un ordre du jour écrit, et vous avez bien entendu préparé autant de photocopies que nécessaire, ou alors vous l'avez inscrit sur un tableau en papier, eh bien tout le monde va s'y référer. Alors, il est possible qu'au début, quelqu'un dise « Écoutez, non, je propose qu'on parle d'abord de ceci ou de cela ». Très bien, ça engage une autre discussion, une autre négociation. Mais sinon, dans la plupart des cas, les gens vont suivre votre du jour. Quelque chose de très simple, une feuille à quatre, quelques points, 1, 2, 3, 4, dans lesquels vous dites ce que vous proposez de discuter pendant cette session-là, et ça va vous permettre de garder un fil conducteur. Vous pouvez également préparer des ajouts ou des modifications à faire si vous négociez un contrat, un protocole ou que sais-je. Vous avez une idée de choses que vous voulez ajouter ou modifier. Préparez la rédaction, ça simplifie beaucoup les choses, ça gagne du temps. Et puis, celui qui est maître de la plume, quelque part, a un avantage sur l'autre partie. Vous vous êtes préparé mentalement, mais il faut aussi préparer le cadre dans lequel va se dérouler la négociation. Deux cas de figure, c'est vous qui recevez ou vous allez à l'extérieur. Si c'est vous qui recevez, il faut que vous prépariez la salle dans laquelle la négociation va se dérouler. Faites attention aux détails, c'est important. Il faut prévoir évidemment des boissons, de la nourriture sous forme de biscuits, de barres chocolatées, enfin de choses qui donnent du sucre rapidement parce qu'une négociation, ça fatigue et on a besoin parfois de glucose pour se sentir mieux. Pensez à l'aération de la pièce, vérifiez que la climatisation marche. S'il n'y a pas de climatisation aérée en ouvrant les fenêtres, faites-le avant le début de la négociation parce que s'il y a du bruit dehors, ça peut gêner. Vérifiez l'éclairage, la luminosité. Moi, je ne suis pas du tout partisan de ces techniques ridicules qui consistent à se mettre avec le soleil dans le dos pour aveugler l'adversaire et le mettre en situation inconfortable. Ça, c'était une technique qui avait été développée par les pilotes japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, on n'est pas en guerre, on est en négociation. Donc, pour moi, toute technique qui consiste à rendre l'adversaire inconfortable est à bannir, à proscrire. Si vous voulez arriver à un accord, puisque c'est pour ça que vous êtes là, eh bien vous aurez bien meilleur temps de créer une atmosphère dans laquelle les gens se sentent bien plutôt qu'une atmosphère dans laquelle ils se sentent mal. Prévoyez évidemment le bon nombre de chaises, des bloc-notes, des stylos, voilà. Vous allez créer un petit nid pour votre négociation. Après, il faut penser à vos invités. Prévoyez une salle de réunion à part pour eux, si vous pouvez. C'est toujours bien parce qu'il y a très souvent un moment, et ce sont souvent des moments cruciaux, où votre adversaire va avoir besoin de parler au sein de son équipe. C'est souvent des moments où l'équipe qui est en face de vous soit a entendu un argument auquel il ne s'attendait pas, soit voit bien qu'on est à un point où il va falloir qu'ils évoluent, et en tout cas, ce sont des carrefours importants pendant lesquels ils ont besoin de se parler. Donc, si vous le pouvez, faites une salle de réunion pour eux. Si vous ne le pouvez pas, vous êtes invité à quitter la salle et aller vous réunir où vous pouvez en attendant qu'ils aient fini. De la même façon, demandez à vos invités, et vous pouvez leur demander à l'avance de la réunion, qui a des contraintes horaires et lesquelles. Et ensuite, il faut les respecter. Et il faut en tenir compte dans le déroulement de la négociation, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver à la bourre avec quelqu'un qui doit impérativement prendre un avion et qui n'a plus le temps de négocier. Alors, cela étant, petit contre-exemple en quelque sorte, j'avais un client américain dans une négociation qui devait prendre un avion, on était un peu au bout du truc, et je voyais l'heure qui tournait, et je me disais que ça commençait à être chaud pour qu'il puisse attraper son avion. Et lui en a profité pour dire, alors maintenant, écoutez, on n'a plus le temps, voilà le package, c'est à prendre ou à laisser. Mais évidemment, ça a entraîné d'autres discussions. Et le moment est venu où vraiment, il n'y avait plus moyen qu'il attrape son avion. Et comme je suis motard depuis très longtemps, lorsqu'on est sorti en courant de cette salle de réunion, je lui ai dit, là, vous n'avez plus le temps de prendre un taxi, et je lui ai proposé de l'emmener en moto. Voilà, donc je l'ai emmené en moto à Roissy, avec l'accord dans sa sacoche, et plus tard, ses équipes lui ont offert une peinture le représentant à califourchon sur ma moto, avec à la main un attaché case d'où s'envolaient les pages du contrat, et en fond de toile, la tour Eiffel avec un avion. Alors, si c'est vous qui êtes reçu ou si la négociation se déroule en terrain neutre, dans une salle de réunion d'un hôtel par exemple, il faut que vous trouviez votre zone de confort pour vous et votre équipe. Donc, demandez une salle de réunion pour conférer entre vous, demandez un break à chaque fois que c'est nécessaire, et même si c'est souvent, demandez aussi des boissons, de la nourriture, des chouquettes, ce que vous voulez, mais mettez-vous dans une zone de confort. Essayez d'arriver un petit peu avant les autres pour explorer la salle, prendre les sièges les plus confortables s'ils ne sont pas tous de la même catégorie et vous installer en quelque sorte. Là aussi, c'est un petit avantage psychologique. Maintenant que vous êtes prêt, que la salle est prête, que tout le monde est réuni, voici que commence la négociation à proprement parler, c'est-à-dire la discussion entre des parties ayant des intérêts possiblement divergents, voire contraires. Le principal facteur de toute négociation, c'est de privilégier l'humain. C'est ce qu'on enseigne dans le célèbre séminaire de négociation ou cours de négociation de l'Université d'Harvard, qui existe depuis maintenant longtemps et qui fait autorité, et que je peux résumer en une seule phrase qui vient de chez eux, qui est « Be hard on the issues and soft on the people ». Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que vous êtes là pour défendre vos intérêts, ou ceux de votre client si vous êtes avocat, mais pas là pour attaquer les gens qui sont en face, les humains qui sont en face. Vous n'avez pas besoin d'être désagréable, d'être agressif, d'être déloyal avec ces personnes qui ne vous ont rien fait à titre personnel. En plus, ça ne sert vraiment à rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire que si vous exprimez un désaccord avec la partie d'en face, par exemple, vous l'exprimez de façon calme et de façon courtoise. Je ne parle pas d'être ami, je ne parle pas de se taper dans le dos, mais simplement d'être bien élevé, d'être courtois. Par exemple, écoutez, j'ai bien entendu ce que vous avez proposé, mais ça ne me convient pas. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne me convient pas. Et à partir de là, vous expliquez votre point de vue de la façon la plus claire, la plus précise et la plus rationnelle possible. Mais le ton sur lequel vous vous exprimez, lui, il est calme, il est neutre, il est cordial. Si vous vous heurtez à un refus systématique de la partie d'en face, systématique et non expliqué, « Non, ça, je ne le veux pas. Je vous ai dit que je n'en voulais pas. Je refuse. Ce n'est pas la peine d'en parler. » À ce moment-là, explorez. Dites, écoutez, je vous entends, mais j'ai besoin de comprendre ce qui vous pose problème dans cette disposition, par exemple. Voulez-vous m'expliquer en quoi ça vous pose un problème afin que nous travaillions ensemble pour voir comment on peut répondre à votre contrainte, à votre souci, tout en trouvant un accord qui nous convienne à tous les deux. Voilà, ça c'est une phrase qui marche très bien. Alors je vais vous donner un contre-exemple où là, c'est moi qui n'ai pas suivi mes propres conseils. J'avais en face de moi un avocat anglais dont le client insistait pour avoir une protection, je ne sais plus laquelle, qui était inacceptable pour mon client. Et on en avait déjà parlé plusieurs fois, j'avais expliqué calmement, rationnellement, pourquoi c'était impossible pour mon client d'accepter cela, et c'était revenu deux, trois fois. Et ce jour-là, dans cette nouvelle phase de négociation, l'avocat en face repose la question. Et moi, je lui dis, c'est une négociation en anglais, et je me mets à vociférer en disant, mais il y en a marre, it's always the same thing, why do you keep repeating that, I told you that my client would never accept that, etc. Donc en français, c'était, il n'en est pas question, on en a déjà parlé, je ne sais pas pourquoi vous insistez, blablabla, blablabla. Et je parle comme ça pendant, je ne sais pas, peut-être une minute ou une minute et demie. Lui, en face, est impassible, et une fois que j'ai fini de vociférer, il me dit en anglais « Was that a no ?» Parce que c'était un non, et j'ai éclaté de rire, parce qu'il m'avait eu, quoi. C'était cette façon de dire « Est-ce que c'est vraiment un non ?»« Est-ce que c'est un non ?»« Was that a no ?» était une façon de me dire « C'est pas la peine de t'énerver, pépère, on se calme, il suffit que tu me dises que ton client n'en veut pas, et puis on va passer à autre chose. » Et j'ai éclaté de rire parce que j'étais pris à mon propre piège, ou plutôt à celui que je vous conseille d'éviter, c'est-à-dire que je ne me concentrais pas sur le point lui-même, mais sur l'interaction en montant dans les tours, ce qui n'est jamais une bonne idée. Une fois cette règle essentielle posée, comment la mettre en œuvre concrètement ? Alors, tout d'abord, soignez votre accueil. Ça veut dire, par exemple, assurez-vous que tout le monde connaît bien tout le monde autour de la table. N'hésitez pas à faire que chacun se présente, ça c'est toujours le cas lors de la première session, mais s'il y a des personnes nouvelles, demandez-leur aussi de se présenter. Commencez ensuite par remercier l'autre partie sincèrement pour le travail accompli si ce n'est pas la première séance, pour l'offre qui a été mise sur la table, pour le mark-up du contrat qui a été proposé, pour le simple fait de s'être mis d'accord sur la date et sur l'heure et sur l'emplacement de la réunion, etc. Il y a toujours quelque chose dont on peut remercier les gens. Et je vous assure que commencer une réunion en remerciant, c'est-à-dire en donnant des merci ou en anglais Thanksgiving, eh bien, ça crée justement cette atmosphère un peu familiale, un peu agréable. La personne en face me reconnaît, m'apprécie, me remercie. Donc, je suis déjà dans de bonnes dispositions. Ensuite, mettez en avant le chemin parcouru déjà, toujours si ce n'est pas la première réunion, et montrer comment chacun a avancé de bonne foi. Si c'est la première réunion, vous proposez l'ordre du jour dont on a parlé tout à l'heure, et si ce n'est pas la première, eh bien, d'abord, vous avez pu proposer un nouvel ordre du jour pour juste cette session-là, ou sinon, vous le faites avec la partie en face, vous listez ce qui reste à discuter. Et c'est comme ça qu'en se mettant d'accord sur une succession de tout petits points, on crée un climat qui est propice à un accord plus global. Pendant la négociation elle-même, faites attention à tout le monde. Si vous constatez que quelqu'un, par exemple, est désagréable, coupe systématiquement la parole, est agressif ou traite certaines personnes, par exemple les femmes ou les minorités, différemment des autres, faites savoir que vous l'avez remarqué très diplomatiquement et suggérez une autre règle d'interaction, et ce, même si cette personne est de votre côté. Exemple, écoutez, je crois qu'il est inutile de s'adresser les uns aux autres comme cela. Je vous propose qu'à partir de maintenant, blablabla. Ou par exemple, quelqu'un qui est systématiquement sur son téléphone et quand on lui adresse la parole a l'air de débarquer, vous pouvez dire, écoutez, je pense que pour l'efficacité de notre séance de négociation, nous n'utilisions pas nos téléphones portables, sauf cas d'urgence, évidemment. Ou s'il y a besoin de vérifier quelque chose dans le cadre de notre négociation. Vous voyez qu'en faisant une proposition et en la faisant collective, c'est-à-dire sans pointer du doigt une personne, vous avez plus de chances d'obtenir une réaction positive, la personne concernée n'ayant en réalité aucun doute que c'est bien d'elle dont il s'agit. Il faut aussi bien utiliser l'espace-temps dans lequel s'inscrit la négociation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir proposer ou demander d'interrompre la négociation en plénière pour privilégier le travail en petits groupes. Pourquoi ? Parce que ça fait moins de pression du groupe dans son ensemble. Ça permet d'offrir un sentiment de plus grande proximité, de plus grande convivialité, de rapprochement. Et ça permet aussi d'isoler ce que j'appelle les bulldogs, c'est-à-dire les personnes qui, dans une négociation, ont une attitude très négative, très agressive et qui empêchent le bon déroulement. Quand je vous parle de faire du travail en petits groupes, ce n'est pas du tout nécessairement une partie d'un côté, l'autre de l'autre. Ça, comme je le disais tout à l'heure, ça peut arriver quand il y a un besoin vraiment de se concerter pour continuer la négociation. Mais par exemple, lorsqu'il y a plusieurs sujets, certains d'ordre financier, d'autres comptables, d'autres juridiques, je vous donne un exemple, la discussion sur le droit applicable et les recours en cas de... différence sur l'interprétation ou l'exécution d'un accord, c'est-à-dire est-ce qu'on va en arbitrage, est-ce qu'on va devant un tribunal, de quelles compétences, etc., sont des discussions qui souvent n'intéressent pas beaucoup les hommes d'affaires, les financiers, etc. Donc, vous pouvez proposer qu'il y ait une équipe qui aille discuter de tel point, une autre qui aille discuter de tel point. Ça peut marcher pas mal. N'hésitez pas aussi à vous déplacer dans la salle ou à faire déplacer les gens. Un truc que j'utilise souvent, c'est de décrire sur un tableau les points dont on est en train de discuter ou les propositions des uns ou des autres et de tendre le marqueur à quelqu'un de l'autre équipe pour lui demander de venir écrire les points qui lui semblent importants, par exemple. Et en forçant les gens à se lever et à bouger de place, vous changez la dynamique de la négociation. Donc, il ne faut pas le faire de façon artificielle, mais il faut garder ça en tête. Une négociation, ça commence toujours par une partie qui est assise d'un côté de la table et l'autre de l'autre. Plus vous pourrez changer cette disposition et faire en sorte que les gens se lèvent, s'assoient du même côté, se répartissent en groupe ou quoi que ce soit, vous verrez, le plus vous créerez une dynamique de négociation constructive. Enfin, à la fin de la journée, à la fin de la séance de négociation, récapitulez en prenant des notes, y compris sur un tableau blanc, ce qui a été convenu et dans une autre couleur, ce qui reste à faire. C'est important de marquer les étapes d'un accord comme celui-là parce que ça remplit un double usage. D'abord, de montrer qu'on a progressé et donc de créer un sentiment de dynamique positive qui va être utile pour la suite. Et deuxièmement, quelque part de figer, même si c'est évidemment pas contraignant, et encore moins juridiquement contraignant, mais le fait d'avoir marqué, par exemple, en bleu ce qui a été convenu, ou en vert, et en rouge ce qui reste à discuter, fait que les parties ont tendance à considérer que ce qui est en bleu ou en vert, ça c'est fait et qu'on n'y reviendra plus. Et je vous assure que ça peut être très utile. Une fois que vous avez fait ça, remerciez à nouveau. Vous vous souvenez que vous avez commencé cette session en remerciant. Eh bien, vous remerciez à nouveau tout le monde pour le travail accompli, de s'être déplacé, d'avoir pris le temps, d'avoir été, d'avoir créé une bonne atmosphère, etc. Là aussi, il y a toujours quelque chose dont on peut remercier les autres. On peut même remercier individuellement telle ou telle personne qui a contribué de façon tout à fait remarquable. Attention à ne pas vexer les autres, donc il faut manipuler ça avec précaution. Et par exemple, s'il y a quelqu'un de l'autre équipe qui a proposé une solution à laquelle personne n'avait pensé et qui a contribué à débloquer la situation, n'hésitez pas à le faire, cette personne vous en sera très reconnaissante. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la façon d'aborder une négociation. Et je vais finir par une anecdote, parce que je sais que vous aimez ça, qui se passe en Chine. Nous sommes à Pékin et je négocie l'implantation d'un grand groupe industriel français en Chine. Il y a tant de choses à discuter que nous nous sommes répartis le travail en plusieurs équipes et je dirige une de ces équipes. Alors, les sessions de négociation prennent beaucoup de temps parce qu'il faut tout traduire dans les deux langues, du français vers le chinois, du chinois vers le français. Nous avons des interprètes pour ça et notre interprète est un jeune étudiant chinois qui parle très bien le français et qui est adorable. Et à un moment, je me dis qu'il faut que je rapporte quelque chose à mes enfants et je pense à un jeu de Go, donc je lui demande où je pourrais acheter un jeu de Go pour le rapporter en France lorsque nous aurons fini la négociation. Alors, il m'a proposé de l'acheter lui-même, puisqu'il y avait un magasin spécialisé dans les jeux de Go sur le chemin de l'hôtel. Le lendemain, il m'apporte le jeu de Go, et au moment où on commence la négociation, la partie chinoise me dit à travers son interprète qu'ils comprennent que j'aime le jeu de Go. Alors, je réponds que j'aime le jeu de Go, mais que j'ai voulu acheter un jeu de Go pour mes enfants. C'est traduit en chinois. La réponse me revient, traduite en français, que M. Li, qui dirigeait l'équipe en face, est également très amateur de Go et propose que nous fassions une partie de Go. Me voilà fort embarrassé. Je joue extrêmement mal au Go. J'ai dû y jouer 4 fois dans ma vie. Et donc, je sais que si nous jouons, je vais prendre une raclée et que ce sera psychologiquement pas bon du tout. Donc, je fais dire à M. Li que je le remercie de sa proposition, mais que je joue trop mal au Go et que ce serait lui faire perdre du temps. La réponse revient, M. Li pense que vous vous sous-estimez et qu'une partie de Go ne manquerait pas d'être intéressante pour tout le monde. Là, je me sens de plus en plus coincé, puisque maintenant, il élargit le cadre et on voit bien que nous ne parlons plus simplement de faire une petite partie entre copains. Et donc, je réponds à M. Li que M. Li me surestime, mais que s'il accepte de me donner une leçon pour m'apprendre à jouer mieux au Go, je l'accepterai. En faisant ça, je me décale, c'est-à-dire que nous ne sommes plus en opposition entre adversaires et que le meilleur gagne, mais je me place en situation d'élève qui est prêt à apprendre de la part de quelqu'un qui est un maître. Et ça ne me gêne pas du tout, puisque là, on ne parle pas du dossier, on parle du jeu de Go. Et en effet, en jeu de Go, j'ai aucune difficulté à admettre que je suis tout à fait un débutant. Monsieur Li répond qu'il n'a pas de leçon à me donner, mais insiste pour que nous fassions une partie de Go. Là, ça fait déjà 20 minutes qu'on est sur ce sujet-là, parce que ça prend du temps, comme je vous le disais, de traduire. Il y a tous les autres personnes qui me regardent un peu du coin de l'œil, du style « mais dans quel pétrin tu nous as fourré ?» Et j'ai cette idée qui m'a traversé l'esprit en fait, sur la base de la remarque qu'avait fait Monsieur Lee, et je dis, dites à Monsieur Lee que lui et moi savons très bien que cette partie de Go a commencé il y a 15 jours, qui était le début des négociations, et que je lui propose de la poursuivre sans plus attendre. Ça lui a été traduit, il a éclaté de rire, et il n'a plus jamais été question de partie de Go. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez, je vous serai reconnaissant de le noter, de le partager. Et si vous avez des questions à me poser, faites-le sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram. Et je vous dis au prochain épisode où j'aurai toujours autant de plaisir à vous retrouver dans mon podcast Parole de Lawyer.